Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after, il est minuit 3, Samuel Umtiti, Daniel Riolo, Manu Petit, Timéo est avec nous, supporter de PSG ici à Dopo. Salut Timéo.
Bonsoir tout le monde.
Et merci d'être avec nous. On va accueillir Paulo Breitner dans quelques instants, mais Manu.
Oui.
PSG Arsenal.
PSG est favori, grandissime favori parce qu'ils ont...
Soit qu'il y a un néo-parisien et un ancien gunner.
Pardon ?
On a bien vu que t'es un néo-parisien, t'es à bloc maintenant, depuis quelques temps, maintenant, depuis 2-3 ans.
Ah oui, non, mais bon, j'ai quand même des gueules dans la peau, même si c'est une équipe française qui joue contre une équipe anglaise.
Tu quand même.
Mon cœur, j'ai quand même vécu 3 années exceptionnelles à Arsenal et à chaque fois j'y retourne.
J'ai 25 ans.
J'étais encore lundi à Londres et je peux te dire que c'était comme si c'était hier, tu vois. Donc j'ai encore beaucoup d'amis dans le club, donc quelque part je me sens affilié avec ce club-là. Donc, mais pour répondre à ta question, pour moi le Paris Saint-Germain semble toujours injouable. Je vois pas, même si l'art de bien défendre est aussi quelque chose de très recherché dans le football, de pas prendre des buts, et que à ce niveau-là, Arsenal a été la seule équipe à aller quasiment au bout de toutes les compétitions cette saison, hormis la demi-finale de la FA Cup. Mais sinon ils sont au bout. Là. Il y a peut-être un truc déclencheur qui peut exister, c'est que la finale arrive le 30 mai et qu'avant on saura qui sera champion d'Angleterre. Cette course depuis plus de 20 ans.
Peut-être le week-end qui précède pour Arsenal.
Exactement, ça peut amener un boost incroyable dans la tête des joueurs d'Arsenal. Mais en termes de jeu collectif, pour moi le PSG est supérieur en termes d'individualité aussi qui peuvent faire la différence, mais sur une finale tout est jouable, et je pense que les Gunners, s'ils sont revigorés avec un titre de champion d'Angleterre, ils peuvent se dire il n'y a pas de coïncidence, puisque ça fait plus de 20 ans ici que la dernière fois que le club a joué une finale de Champions League.
Ils peuvent être portés par
exactement par les, il peut y avoir un vent, tu
bien
vois
sûr, bien sûr, ça, oui.
une espèce de libération dans les têtes des Gunners, en disant ça y est, on est champion d'Angleterre maintenant, la finale de Champions League c'est la cerise sur le gâteau et ils vont se libérer. Ça peut être ça, tu vois.
Bon, Samuel, tu la vois comment?
Non, je pense que Paris, c'est l'équipe favorite de cette finale, mais je pense que sur une finale, à certains moments, il y a des choses qui peuvent se passer sur un match, mais je pense que le Paris Saint-Germain est vraiment injouable sur ce genre de rencontre, et encore plus face à une équipe comme Arsenal, qui a des individualités qui sont moins fortes, un collectif certes qui arrive à bien défendre. Je les ai vus encore là dernièrement, ils sont capables de bien défendre, mais c'est pas suffisant pour mettre en difficulté une équipe comme le Paris Saint-Germain.
Bon, quand tu les entends là, Timéo, toi le supporter du PSG, t'es rassuré?
Je suis d'accord avec eux, en vrai on est assez rassuré, surtout en défense. Après le match qu'on a vu, on peut que être rassuré. Néanmoins c'est une finale, on peut s'attendre à tout. Mais non, moi je suis assez serein quand même.
Ça change par rapport à l'an dernier quand même. Hein.
Ouais, bien sûr, c'est sûr.
L'année dernière.
Bon, l'an dernier, t'arrivais pas au roulant des mécaniques quand même.
Ah si, pour la finale, t'étais quand même bien. Pour la finale, ça va, t'étais.
Mais pas aussi serein que là.
Non, pas aussi serein que là. Mais bon, vu le parcours que tu venais de faire, t'étais quand même habité par l'idée que c'était la bonne année. Quoi.
Et aussi l'Inter, l'année dernière, rappelez-vous, était parmi les meilleures défenses de Champions League.
Mmh. Mmh.
Et alors qu'ils en prennent une flopée contre le Barça et en finale contre le PSG.
Nasser Al-Khelaïfi a dit il y a quelques minutes, on est parti avec cette équipe pour un cycle de 5 ans. Il a dit ça.
Ah mais des fois, je pense qu'il faut pas trop parler.
5 ans, c'est rare. Déjà, que le Real.
Il aurait mieux fait de se taire.
Bah oui.
Déjà, Marquinhos va partir.
Parle de ta saison, la saison du Paris Saint-Germain qui va jusqu'en finale, 2 années consécutives, c'est top. Mais 5 ans, tu sais même pas ce qui va se passer. L'année prochaine, tu sais même pas les joueurs comment ils vont être, la performance qu'ils vont.
Ce genre de déclaration.
Et je déteste ça, moi. Moi, j'aime pas.
Je préfère. Voilà. Vaut mieux pas parler comme ça.
Cette équipe. Quand il faudra la renouveler, c'est quand tu auras analysé quels sont les joueurs qui peuvent encore continuer, qui ont la même faim, la même envie, la même exigence par rapport au discours de l'entraîneur. C'est souvent comme ça que ces cycles-là s'arrêtent dans ces équipes qui dominent. C'est soit l'entraîneur, il a le droit de décider d'aller tenter une aventure ailleurs, soit certains joueurs ont également peut-être envie d'aller ailleurs. Je sais pas si Dembélé, on est sûr à 100% que Dembélé est là l'année prochaine.
Si
donc ça veut dire que tu dois le remplacer.
Si un grand club qui arrive, tu penses que certains joueurs seraient tentés à partir?
Bah, du style Real Madrid, par exemple,
je sais pas.
Viennent toquer peut-être, à la porte de Vitinha.
Peut-être ils se disent, on tente encore une fois, mais
de Nuno Mendes, tous ces joueurs-là.
Quand t'as gagné déjà deux fois, t'as le droit d'aller voir ailleurs. Tous les joueurs ont parfois envie d'aller voir ailleurs.
C'est pour ça. Cinq ans, ça me semble un peu long.
Ouais, c'est pour ça que ça me semble très long et qu'aujourd'hui, déjà, si tu fais deux fois dans le foot actuel, c'est
est-ce qu'il compte les deux années, là, qui viennent de s'écouler dans ces cinq ans? C'est possible aussi.
Oui.
Mais même 5 ans, c'est énorme.
Ouais, puis je pense que ça dépend aussi des plans de Luis Enrique. Franchement, ça dépend tellement de choses.
Ses plans, je vois pas pourquoi certains partiront.
Les joueurs Dembélé, il a le droit à un moment de tenter autre chose dans sa vie.
Après, t'as quand même les Neves, Mendes, Doué, Barcola. T'as quand même une ossature d'équipe qui
est moins de 25 ans. Revient souvent en Angleterre,
qui en gros peut, en restant là, se faire un palmarès de folie en l'espace de quelques années. Bon, t'as pas la garantie de gagner tout le temps, mais enfin, t'as quand même une base.
Nous, quand on avait régné sur le monde pendant 5 ans avec l'équipe de France, c'était un cycle maximum. On pouvait pas faire plus. Hein. Mm. Tu peux pas faire plus.
Vous avez de la chance en plus.
Ah bon,
j'adore lui dire ça.
Non, mais j'adore. Quand tu confirmes après un euro, c'est sûr que t'as de la chance.
On peut pas te chambrer. Il y a des sujets sur lesquels on peut pas te chambrer.
Pardon ?
Il y a des sujets sur lesquels on peut pas te chambrer.
Sur de la mauvaise foi, c'est pire que de la.
C'est ce que je dis.
Et surtout qu'on est bien lotis ici dans l'émission au topo, tu vois.
Mike Katsovo. <ouais.
rire> Polo Breitner est-il parmi nous? Polo, bonsoir.
Ouais, Polo.
Salut, Polo.
Excusez-moi, je me réveille.
Qu'est-ce qu'il se dit alors?
Est-ce qu'on gueule après l'arbitrage en Allemagne?
Bah évidemment, en fait, moi ça me revient la phrase de Thomas Müller il y a 3 ans maintenant, qui dit que les clubs allemands ne sont pas respectés par les arbitres européens. Je vous rappelle le 8e de finale, Leverkusen-Arsenal, hein, qui mène 1-0, Leverkusen se prend un penalty, on ne sait pas pourquoi, après les arrêts de jeu, la fameuse rencontre Manchester City et Leipzig, etc. Et là, en effet, Sami Khedira, donc l'ancien champion du monde, a pété une durite à la mi-temps en disant il y avait 3 équipes. Il y avait le PSG, il y avait le Bayern et il y avait une équipe d'amateurs, les arbitres. Et on n'a pas le droit. On ne peut pas demander à des joueurs d'être toujours performants, d'être toujours dans la concentration, de ne pas faire de faute, d'être ceci et cela, lorsqu'on a un arbitrage comme on a eu ce soir. Le pire, évidemment, c'est ce qu'on appelle en Allemagne le Gelbrot, donc le deuxième jaune qui aurait dû enchaîner le rouge avec la main de Mendes. Et c'est même pas le penalty ou comment il s'appelle, le petit, là, déjà.
De Neves.
De Mendes, ouais, exactement. C'est ça, en fait, qui a. Et puis, à la fin de la rencontre, il y avait Balak qui était là, et t'as le sentiment que tout ce qui lui était arrivé avec le Chelsea-Barça de 2009, est revenu, le fameux fucking disgrace, là, parce que plus il parlait, plus il s'énervait et plus il montait dans les tours en disant mais c'est pas possible que ce qui est arrivé. Donc en fait, il est évident que sur la double confrontation, le PSG mérite sa qualification, mais ce fait de jeu à la demi-heure de jeu et cette non-exclusion de Mendes, je veux dire, si l'arbitrage ne veut plus rien dire, dans toutes ces conditions, on fait le classement en début de saison, on regarde Transfermarkt, les équipes les plus valorisées, et on donne le titre, quoi. Mais c'est ça qui est un petit peu problématique. Ensuite, ils sont évidemment revenus sur la rencontre, et ce qui a frappé, c'est cette flexibilité du PSG que n'a pas le Bayern Munich. Donc c'est que la qualification finalement pour le PSG est méritée. Les joueurs ont quasiment tous été interrogés, notamment Konrad Leimer. On lui explique, le mec il a encore couru tout le temps pendant tout le terrain pendant 90 minutes et il dit c'est dur parce que finalement à la fin ça se joue finalement sur pas grand chose. Mais quand on regarde la rencontre de soir et qu'on se rend compte que le PSG menait 5-2 quand même, il y a
un peu plus que pas grand parisienne.
Chose. Exactement. Ouais. Donc
Manu, on va te laisser.
Oui.
T'as fait une petite prolongation là, c'est sympa. Merci Manu.
Bah je vous en prie les gars.
Pour la finale c'est à 18h, donc là on pourra t'avoir plus longtemps.
Voilà. Allez, Arfidazen, Gudentart, Arfidazen et tout le monde. Okay.
Salut Manu, bonne soirée. Rentrons un peu dans les détails quand même des performances côté Bayern. Polo, on avait Compagnie après le match aller qui a dit moi je changerai rien en retour. Oui. Et finalement, sur les 40 premières minutes, on a l'impression que lui, il voulait peut-être rien changer, mais sur le terrain, c'était pas la même équipe, quoi.
Ben, le Bayern a eu du mal à rentrer. C'est même pas le premier but encaissé, c'est que le Bayern n'est pas rentré. Les ballons étaient mal assurés, les passes aussi. Il y avait un taux, vous savez, je regarde toujours, moi, les grandes équipes ont toujours un taux de passes réussies très, très important qui tourne autour de 90 minutes. Et du côté du Bayern, on tournait vers 75, 77 au début. Et c'était assez impressionnant. Et donc, ils ont raté quasiment leur première mi-temps. Ça a été mieux le dernier quart d'heure, mais globalement, ils ont perdu une demi-heure sur la rencontre. Alors, comment on peut expliquer ça? C'est délicat parce que c'est quand même des équipes qui ont l'habitude, et notamment le Bayern, d'être en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, c'est pas comme ça, quoi. J'arrive pas bien à comprendre. Est-ce qu'ils ont joué le match avant, comme disait Vincent Kompany, qu'il ne fallait pas jouer la rencontre avant? Je sais rien. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait un narratif depuis une semaine qui permettait au foot allemand de se glorifier un petit peu, parce qu'on mettait le Bayern au même niveau que le PSG et on était dans la vague du match du 5-4 de l'aller et tout ça, et tout est beau, tout est merveilleux, le Bayern est le plus grand club du monde. Ce que je constate ce soir, c'est qu'ils étaient pas là au début de la rencontre, que certains joueurs, d'ailleurs j'en profite pour dire aux journalistes de RMC d'arrêter de m'appeler pour faire des émissions au Lycée Ballon d'Or, parce que ça me gonfle. Non mais c'est vrai, celui qui dit qu'Olysée et Ballon d'Or soir, c'est de la rigolade quand même. Au bout d'un moment,
on avait prévu d'en parler. On a attendu deux secondes là, mais on avait prévu d'ouvrir le dossier, Polo. De sa perte du soir, quoi.
Bah, Olysée, il rate son match ce soir. Ça lui enlève pas les qualités qu'on lui a vues tout au long de la saison, mais effectivement.
Non mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il faut déjà le mettre
très vite. Mais bien sûr,
oui,
t'as raison,
d'aller
Polo.
Trop vite, oui, au bout d'un moment, ça va. C'est pas la première fois qu'il rate des matchs comme ça. C'est pas, faut les regarder, faut analyser. Ah, il a
Polo,
déjà
fait. C'est la même chose. C'est la même chose avec ce qui se passe en ce moment. Permets-moi juste un petit dégagement, pas de côté. Ce qui se passe autour de Mbappé, avec des sommets absolument ignobles de haine, avec les faux comptes et les débats qui suivent.
Et les fausses pétitions, maintenant.
Les fausses pétitions et les débats qui suivent derrière, qui indique donc que Olysée, Dembélé, enfin la terre entière doit prendre la place de Mbappé en équipe de France, alors que ce sont des joueurs qui n'ont pas les références de Mbappé en équipe de France. D'un côté on les entend dire ah mais le foot de sélection c'est pas comme le foot de club. Donc en gros, à chaque fois qu'il faut défoncer quelqu'un, on retourne l'argument comme on veut. Bah si le foot de sélection n'est pas le football de club, donc les joueurs qui sont très bons en club n'ont pas encore montré qu'en sélection ils étaient au niveau pour le mettre dehors, puisque certains font des débats pour le mettre dehors. Donc on va essayer de se calmer un petit peu, parce que désormais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on atteint des sommets absolus de bêtises. Les intelligences artificielles créent même des pétitions. Il y a des gens qui ont dit qu'on pouvait voter 100 fois en une seconde, la fameuse pétition anti-Mbappé. C'est dire à quel niveau on est arrivé. Et donc, et les fameuses, je reviens maintenant à ce que tu disais, Olysée, j'ai adoré sa saison, j'aime la façon dont il touche le ballon, j'aime son match aller. Ce soir, il passe au travers. Je ne vais pas dire ce soir qu'il est mauvais, et je n'ai pas dit la semaine dernière qu'il était ballon d'or. En revanche, si j'ai le droit de dire que je veux qu'il soit titulaire en équipe de France, ok, pas de problème pour ça. Mais de là à dire ballon d'or, machin, et tout ce qu'on a entendu, mais oui, mais aujourd'hui, c'est ça, malheureusement, Polo, et tu le sais mieux que moi.
Alors, Samuel, tu vas...
Moi, je le sais pas, parce que je veux pas l'entendre, mais...
Oui, voilà, mais bon.
De ballon d'or, ça va tellement vite. Même quand on parlait là de Kylian, je pense que les gens oublient tellement ce qu'il a réussi à faire en équipe de France, alors que ces joueurs-là, on parle d'Olysée, oui, c'est très beau ce qu'il fait, il enchaîne des saisons où il est performant. En équipe de France, Kylian, ce qu'il fait, il y a personne qui l'a encore fait. Donc, faut respecter aussi le bonhomme, mais ensuite, de parler d'Olysée ballon d'or, ça va trop vite. On peut dire que sa saison, elle est réussie. Des passes décisives, des buts, il a été présent tout au long de la saison. Ok.
Mais saison remarquable.
Voilà. Mais je pense qu'il faut doser. Même de parler il va prendre la place de Kylian, même Ousmane. Non. Je pense que chacun connaît son rôle. Chacun aussi connaît le rôle de Kylian et ce qu'il est capable d'apporter. Même si là, il est dans une période où au Real, parce que collectivement aussi, ça ne va pas. Mais les qualités que Kylian a, est-ce qu'il est capable d'apporter en équipe de France? Ah.
Ce qui est terrible, c'est la façon dont on veut l'abattre.
Oui, mais on veut
aujourd'hui, il y a des gens qui veulent l'abattre.
On veut l'abattre pourquoi?
Carrément.
On veut l'abattre pourquoi?
Il y a un jour, il faudra qu'on essaye de m'expliquer réellement pourquoi on veut. Parce que qu'on n'aime pas quelqu'un, oui, mais vouloir l'abattre, ça, j'ai plus de mal à comprendre.
Timéo, t'as une théorie?
Ouais, non, moi, juste pour revenir sur Olysée, aujourd'hui, un peu transparent, mais à l'image un peu de l'équipe, match aller, il brille, à l'image de l'équipe. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi, Samuel, faut un peu. Camer le jeu, c'est un très bon joueur, on peut pas le nier, mais de là à vouloir le remplacer par des très bons joueurs qui ont fait leur preuve auparavant, pour moi c'est pas possible.
Dans un instant, on va continuer l'évaluation ensemble. On va parler aussi de Luis Diaz et des autres joueurs du Bayern avec Polo. Et puis l'actu du jour avec toujours un peu d'actu marseillaise. Il y en a tous les jours en ce moment. Hein.
Même pas un mot sur la grande affiche, la seule vraie grande affiche de la semaine demain soir. Il n'y aura pas un mot dessus.
Rayo Vallecano Strasbourg. Si, si, c'est prévu.
Strasbourg, Rayo Vallecano.
Strasbourg Vallecano. Oh, ouais. J'y serai d'ailleurs.
Bah, j'espère bien que tu seras.
Allez, à tout de suite.
C'est la seule chance de s'en sortir.
Chat noir ou pas, on verra.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 18, encore un petit quart d'heure ensemble avant les nuits du Casar enchaîné qui arrivent. Je ne sais pas dans quel état on va retrouver Julien tout à l'heure, mais il sera là. Daniel Riolo, en attendant, bien sûr, est là. Samuel Umtiti, Timéo, supporter du PSG avec nous ici au Dopo. Et Paulo Breitner, évidemment, pour finir l'analyse du match entre le Bayern et le PSG. Donc, Paulo, toi, tu dirais que c'est avant tout les individualités qui n'étaient pas au rendez-vous. On a parlé d'Olysée, il y a Luis Diaz.
Je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce que ce soir, vous avez vu un centre arriver à destination? Du côté du Bayern.
Et écoute,
même des passes, sans parler de centre, même des passes. Il y a tellement de passes.
Donc, au bout d'un moment, il y a eu deux échecs flagrants pour moi dans cette rencontre. C'est Moussiala qui a été plus que mauvais. Moi, j'espérais la rentrée de Karl le plus rapidement possible. Et puis Olysée qui a déçu, je trouve. Alors tout est relatif, hein, évidemment, quand on voit la qualité technique qu'ils ont. Luis Diaz nous a fait toujours la même chose. Luis Diaz nous a fait toujours la même chose sur son côté gauche, alors que je pense qu'il pouvait rentrer côté droit. Il a toujours cherché le petit côté systématiquement. Enfin, je sais pas. Enfin, ce soir, en fait, moi, où je suis impressionné, c'est par la défense du PSG, en fait, qui a tout verrouillé contre un Bayern qui était, c'est pas qu'il était amorphe, c'est que, mais des matchs comme ça en demi-finale de Ligue des Champions, j'en ai vu plein du Bayern comme ça. On peut remonter dans les années 90 contre l'Étoile Rouge, des trucs comme ça. Il y a plein de matchs parfois où ça veut pas fonctionner, ça veut pas tourner. Tu te prends un but dès le début. Le meilleur joueur du Bayern, c'est Neuer. Hein, faut quand même pas l'oublier. Et ce soir, Kimmich, il trouvait pas les espaces. Pavlovic, il était pas complètement sécur. Tu avais heureusement Harry Kane égalise sur l'une des rares occasions qu'il a. Je trouve que on n'a pas vu un grand match du Bayern. Maintenant, je pense que c'est à cause de ce qu'a fait le PSG, ou c'est grâce plutôt à ce qu'a fait le PSG, et notamment le fait qu'on a vu un festival offensif lors du match aller et que là, on a vu une équipe hybride capable de faire différentes choses et ce que n'est pas capable de faire le Bayern.
Donc, les gars.
Après, je trouve que moi, ça a manqué. Tu joues chez toi, retour de demi-finale de Ligue des Champions. Ça manquait de folie. Vraiment, le Bayern, je les ai trouvés, ouais, peut-être amorphe, mais ça manquait totalement
alors
de folie.
Alors qu'à l'aller, on a eu que ça.
Exactement. Alors qu'à l'aller, et tu te dis au match retour, oh, ça va être encore.
Mais c'est aussi le PSG qui ne l'a pas autorisé la folie.
Je suis d'accord.
En descendant le bloc.
Mais pour avoir la folie, il faut avoir une justesse technique tout le temps. Et là, cette justesse technique-là, il l'avait pas. Dans des passes simples, il ne l'avait pas. Dans des passes un peu plus compliquées, je peux l'entendre. Mais même dans des dribbles, ça passait pas. Parce que là, oui, je te rejoins. Le Paris Saint-Germain, défensivement, a été très fort dans l'impact, dans l'engagement. Et c'était impossible pour cette équipe du Bayern.
On s'est enflammé la semaine dernière à tirer des grandes conclusions sur ça y est, peut-être le nouveau football. Certains ont pas aimé, beaucoup ont adoré. Et puis, finalement, match retour. Alors que, globalement, on se disait, tiens, est-ce que ça va continuer? On n'a pas du tout vu la même chose. Donc, comme quoi, ce qui se passe,
c'est possible aussi.
Quelle conclusion tirer?
Il fallait s'attendre à ce que le match soit forcément pareil.
Non,
pourquoi?
Mais c'est possible aussi que le Bayern soit en train de tirer la langue sur la fin de saison. Hein. Moi, je constate que le nombre de kilomètres que court le Bayern est beaucoup moins impressionnant que ce qu'il faisait tout au long de la saison, depuis quelques journées. Le débat sur les nombres de buts encaissés qui n'existaient pas, je rappelle que pendant 95% de la saison, le Bayern était, et de loin, la meilleure défense de Bundesliga. Ils sont fait exploser complètement lors des dernières journées. Donc on mettait ça sur le compte des remplaçants et du turnover. Il est fort possible. Mais en fait, ce qui se passe en ce moment, avec le 4-3 à Mayence, la victoire 4-3 à Mayence, le 3-3 de ce week-end, me fait beaucoup penser à ce qui était arrivé à Pep Guardiola en 2015, lorsqu'il avait enchaîné lors de la je sais plus, c'était contre le Barça ou le Real, 4 défaites à la suite. Il perd en demi-finale tout allait bien, tout le monde se préparait, etc. Et il perd 4 matchs à la suite en fin de saison. On sait pas pourquoi. Évidemment, il gagne la Bundesliga, mais il perd la Ligue des Champions. Il est éliminé de Ligue des Champions. Et la période en ce moment me fait un petit peu penser à ça. Mais j'ai pas de preuves matérielles. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé un Bayern un peu fatigué. Voilà, pas là, pas comme il fallait. Ils font beaucoup plus mal d'habitude. Ils ont dominé le milieu de terrain lors du match aller, match retour. C'était très très compliqué. Donc évidemment, Luis Enrique a le droit d'ajuster son équipe. C'est pas parce qu'on voit bien que sur le contre-pressing et sur le pressing aux 30 mètres, c'était assez impressionnant parce que c'est le PSG qu'ils avaient évidemment étudié les circulations de relance à partir de Manuel Neuer. Mais je suis un peu déçu en fait de ce que j'ai vu ce soir. Mais c'est sûrement grâce au PSG.
Bon, un mot d'Upamecano, parce que c'est quand même, on le suit de près, en vue de la Coupe du Monde, on avait été dit tyrambique la semaine dernière. On est un peu moins.
Je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur lui, hein. Ouais, moi, aucune inquiétude, c'est un super défenseur, il n'y a aucune raison.
C'est l'un des meilleurs du monde en ce moment, donc il n'y a pas de vrai problème. Moi, c'est, de toute façon, les centraux qui montent comme ça, qui arrivent à montrer, et qui arrivent à monter, etc., et qu'on les juge parce qu'ils font une faute de temps en temps, c'est moi, bon. Bof.
On pourra noter les choix, on n'en a pas parlé, de compagnie à un moment.
Qui sont les défenseurs?
Ouais, changer le central. Donc je me suis dit.
En fait, il fait descendre Pavlovic.
Il est vraiment connu pour être meilleur de la tête. Si on, ils se sont dit, on va balancer des ballons devant. Quelle était l'idée?
Jonathan Tah. Alors, Jonathan Tah, c'est parce qu'il avait pris un jaune, je pense, et comme il pensait que c'est des. Je suis Bodork, hein, que compagnie estimait que plus ça allait avancer, plus les.
Ces défenseurs centraux
allaient se retrouver en un contre un et qu'il y avait une risque d'une faute, etc. Donc, Jonathan Tah soit sorti. Bon, évidemment, le fait de le remplacer par Migné n'est pas un avantage, mais en fait il fait reculer Pavlovic sur la fin de rencontre, ce qui lui permet d'amener Davis, Jackson et puis Karl pour les 5 dernières minutes. Mais moi j'aurais aimé
Laimer, ils ont pas inversé de côté Laimer et
si, ils ont inversé Stanisic. Parce que Stanisic était en difficulté au début contre Kvara et
ouais, mais donc il y a eu ce choix est notable aussi. J'ai tout de suite je me suis demandé également pourquoi je me suis dit que c'était pas par rapport à Kvara, quoi, mais je trouve toujours bizarre quand pour un match aussi important on change des choses alors qu'on peut pas dire que le Bayern n'avait pas bien fonctionné la semaine dernière, quoi.
Ouais, mais Stanisic aussi, il y a peut-être aussi dans ces grands matchs, c'est là où tu vois la limite de certains joueurs, hein, c'est toujours pareil. Moi, Stanisic, il a un développement assez intéressant, de là à en faire un grand latéral alors que c'est un central de formation. Ça fait partie de ces défenses à 4 avec trois défenseurs centraux, c'est très limite, ça passe en Bundesliga, ça passera pas contre le Real, le PSG ou Manchester City quand ils seront à leur niveau, quoi. Donc c'est ça le problème. Et Laimer, c'est pareil, c'est quand même le couteau suisse qui joue partout. Je pense que cet été évidemment il y aura une vraie réflexion, faudrait-il encore que Davis revienne à son vrai niveau, mais au minimum au poste d'arrière droit, il y a des réflexions à mener pour le, mais il faut voir, parce que là honnêtement quand le Bayern là, j'ai écouté compagnie tous les joueurs après, la déception est très très grande en fait.
Je comprends Polo.
Ouais, parce qu'ils sentaient que c'était pour eux et finalement le PSG était plus fort.
Ils avaient l'impression que cette année c'était la bonne année parce que d'une ils jouaient remarquablement bien, que le groupe est bon, parfait, compagnie a trouvé la façon de gérer tout ça, et surtout là où le PSG a une équipe jeune où tu te dis bon bah si les mecs veulent pas se barrer, ils peuvent continuer un petit peu ensemble. Mais au Bayern, il y a des joueurs sur lesquels tu peux, au minimum, enfin, je sais pas si on peut parler de doute, mais tu dis bon, Kimmich, ça fait des années qu'il est là maintenant. Est-ce que l'année prochaine il va être encore bon? Neuer, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Harry Kane n'est pas tout jeune non plus. C'était vraiment pour ces joueurs-là, c'était le moment de la récompense, tu vois.
Oui,
c'était le moment de la récompense pour ces mecs-là.
Oui, mais tu aurais pas dit ça en début de saison. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'arrête pas de dire que c'est ce qui s'est passé cette saison pour le Bayern. C'est quand même une sacrée surprise parce que le niveau de compagnie 2 par rapport aux compagnie 1 est indiscutable. L'évolution de certains joueurs, le retour de Gnabry, de Joshua Kimmich, de Goretzka. Enfin, Goretzka,
après,
ils sont
la blessure
bon,
de Gnabry, ça a été très préjudiciable parce que Moussiala, on l'a jamais revu.
Mais Moussiala, il revient de blessure
ça,
aussi.
C'est un élément.
Il revient à ce stade
d'une saison. Il faut quand même dire que le PSG a toujours été au complet. Et quand on parlait de prépa, de la façon dont la saison s'est déroulée, et le PSG s'est retrouvé dans les matchs importants avec son 11. Le Bayern, qui a été impressionnant toute l'année, dans une compo qu'on pouvait donner les yeux fermés, il se trouve que au moment de jouer le PSG en demi, il leur manque Serge Gnabry. Ouais. Et Serge Gnabry, remplacé poste pour poste par Moussiala, qui a raté quasiment toute la saison blessé. Pardon, mais ça, je crois qu'on l'a mentionné ni à l'aller ni au retour. C'est injuste de pas le mentionner. Mais c'est un joueur clé qui manquait au Bayern quand même.
Mais
allez,
ouais,
confrontation, je veux dire. Les gars, le temps passe. Polo, merci beaucoup.
Oui, ciao, ciao.
Et à très vite pour reparler foot allemand ensemble. On a encore deux petites minutes, les gars. Donc demain, on pourrait avoir une autre équipe en finale de Coupe d'Europe. Ce serait pas fou ça en l'espace de 48 heures.
On va la voir.
Ouais, je pense.
On va la voir.
Alors sans Emega. Sans Guéladoué.
N'en dis pas plus, passe
sans
à autre chose.
Guéladoué qui n'est pas
moi je pense qu'on peut déjà faire un hop, un jump. On démarre l'after dès maintenant.
Normalement.
Bon, alors Strasbourg est en finale.
Normalement, Barco est là.
Tu veux de plus.
Bon, t'as joué au Rayo.
J'ai déjà joué contre, en tout cas face à cette équipe. Mm. Et comme j'avais dit, chez eux, c'est très dur. Très, très dur.
Cette année, ni le Barça, ni Madrid n'a gagné. Non,
c'est très dur. Terrain petit, c'est injouable là-bas. Et je sais qu'à l'extérieur, ils ont du mal. Et si Strasbourg.
Ils ont perdu 3-1 le tour d'avant avec Athènes, par exemple.
Si Strasbourg joue son jeu avec ses joueurs, avec l'intensité qu'ils sont capables de mettre pour aller les chercher, et techniquement
merci,
d'être
Samuel,
bon.
Je vais bien dormir.
Non, honnêtement, je pense que Strasbourg a la capacité vraiment de gagner et d'aller en finale. Ouais.
Je voulais également vous signaler que Lens-Nantes vendredi sera très compliqué pour Lens parce qu'il y a plein de suspendus. Thomasson, Sangaré, Abdelhamid, et on apprend aujourd'hui que Thauvin et Saint-Maximin sont forfaits, eux aussi. Donc on aura une équipe de Lens très diminuée. Face à Nantes. Dimanche soir, on aura la Ligue 1 et en même temps, il y aura Classico. Hein. Barça-Real, aujourd'hui, on ne sait pas encore si Mbappé pourra jouer, c'est une des infos du jour. Et puis au Real, c'est toujours aussi chaud. La presse espagnole explique que Tchouaméni et Valverde ont failli se battre à l'entraînement aujourd'hui.
Waouh. Quelle ambiance.
Voilà, donc c'est chaud. Puis sinon, dernière info, le sélectionneur du Canada, Jesse Marsh, a qualifié aujourd'hui De Zerbi, je cite, de connard et de trou du cul. Quand même.
Pourquoi les deux?
Pourquoi les deux, je ne sais pas, mais c'est.
Connard, c'est assez, non?
À propos de sa gestion
de. Qu'est-ce que ça ajoute, trou du cul, connard, en fait?
À propos de sa gestion d'Ismaël Koné. Parce que Ismaël Koné est un pilier de l'équipe du Canada.
Oui, bah,
et il estime qu'il a très mal géré Koné, qui était parti à Sassuolo, rappelez-vous. Donc, Jesse Marsh a allumé De Zerbi. Julien Cazard est là. Julien, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonjour à tous.
Serein, Julien, tranquille, décontracté?
Tranquille, comme d'hab, en finale, comme d'hab. Normal.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est devenu commun.
Non, par contre, c'est que je suis embêté pour Kimmich parce que ça fait quand même 14 fois que la meilleure équipe a encore perdu. C'est quand même fou parce qu'à chaque fois, il dit que quand il perd, il dit que c'est la meilleure équipe qui a perdu.
Ah, il a dit ça?
Mais à chaque fois, à chaque fois qu'il perd, lui, il dit la meilleure équipe a perdu. C'est dommage. Bah oui, c'est con. Peut-être, du coup, c'est peut-être un peu moins la meilleure équipe. Du coup, je sais.
Et lui, il est toujours dans la meilleure équipe.
C'est dommage. C'est pas de bol. Non, mais voilà, on est encore en finale. On est blasé. Puis plus rien.
Tu vas aller à Budapest?
Ah bah oui, de toute façon j'y serai allé quand même. Je te préviens. Ah oui, moi j'y vais, moi je m'en fous. Bien sûr, évidemment. Pour moi, ça y est, c'est plié là. Les Anglais, c'est bon, c'est dans la poche.
On en reparle dans les nuits du Casar, enchaîné tout de suite. Merci Daniel, merci Sam, Timéo, salut, à la prochaine.
À la prochaine.
Et demain, on sera là nous dès la fin du match. Strasbourg, Rayo Vallecano, bien sûr, avec, on l'espère, une deuxième finale.
Au revoir.
Oh. RMC jusqu'à 12h30. L'After Foot.